Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Lorsque Donald Trump avait été investi en 2017, la journaliste du Figaro, Jenny Bastier, avait envoyé un message intitulé « Le retour de l'ancien monde ». Après l'ancien, ce serait maintenant le nouveau qui serait de retour. Depuis l'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier, le retour de l'Alliance des démocraties, un désir mondial de justice fiscale inespéré il y a quelques années, de grandes annonces en matière d'engagement climatique. Ancien monde, nouveau monde, de quoi avoir le tournis ? Nombre d'entre nous, même à l'abri de nos démocraties, se sentent aujourd'hui exposés, menacés. Le pape François n'a-t-il pas l'habitude de dire qu'il n'y a jamais eu autant de Néron ? De quoi y perdre son latin ?
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi, émission d'actualité. Ce mois-ci, autour du plateau pour cette dernière de la saison 2020-2021, Marie-Christine Monnoyer, toujours professeure émérite de sciences de gestion et entre autres titulaire de la chaire Jean Rondin, peut ajouter aussi secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Et Emmanuel Perrier, religieux dominicain, prêtre, professeur de théologie au studium du couvent du couvent Saint-Thomas d'Aquin, couvent des dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Je voulais une première question en écho à mon introduction, qui peut donner l'impression de grande généralité, mais c'est vrai qu'on a choisi comme sujet, comme premier sujet, la tournée européenne de Joe Biden. Après, on parlera donc de la réforme de la haute fonction publique en France, puisque l'ENA va fermer ses portes et être remplacée par un Institut national du service public et le corps des préfets disparaître. Et puis, à la fin, ce sera des sujets libres. Taxation mondiale ou alors idéologie du woke. Mais c'est vrai que voilà, quand on n'est pas, on va dire, un observateur averti, comme disent les journaux, on a l'impression, entre Trump et Joe Biden, qu'on nous vend deux mondes différents, qui a là des injonctions bien contradictoires. J'en notais quelques-unes aussi au début de l'émission. Multilatéralisme, bilatéralisme, déclin des démocraties et multiplication des autocraties. Des régimes forts en tout cas, le pape François qui nous invite à entrer dans une nouvelle civilisation, qui parle aussi de Troisième Guerre mondiale, bref, ça donne un peu le tournis. Est-ce que vous y voyez là, quelque part, des mouvements contradictoires, sans vouloir verser dans la caricature des émissions d'actualité, et de dire que le monde change? Marie-Christine, qu'est-ce que ça vous inspire?
Il est sûr que la nomination d'un nouveau président de la République aux États-Unis, qui est démocrate alors que le précédent était républicain, et un républicain dur, ne peut pas ne pas changer les choses. Surtout dans une période, comme vous l'avez dit, qui est marquée profondément par le développement de certaines autocratures ou autres, etc. Et puis par la problématique majeure du changement climatique. Donc, cela change des choses et nous avons tous été frappés dans les premières semaines et les premiers mois qui ont suivi son investiture de décisions, de voyages, de rencontres qui montrent que le président Biden n'est pas un assoupi mais qu'il est très réveillé. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il a les mêmes idées, les mêmes espérances, les mêmes volontés que les pays européens dont nous participons.
Alors on y reviendra. Je vous précise peut-être encore plus ma première question, enfin qui se veut être un peu un grand préambule, pas forcément pour parler directement de Joe Biden, Emmanuel Perrier, mais voilà, ça fait quand même un contraste très fort entre un Donald Trump et un Joe Biden, hein, ça n'aura échappé à personne. C'est des contrastes qu'on trouve aussi chez nous, de plus en plus. Voilà, on a l'impression qu'il y a comme une plus grande polarisation, comme on dit un peu dans le jargon, à l'intérieur de nos démocraties et puis aussi dans le monde. Du coup, on s'y perd un peu.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a clairement une très grande polarisation et elle se reflète dans la vie intérieure des États. Maintenant, je serais peut-être plus prudent du point de vue de la politique étrangère. La politique étrangère, c'est pas vous qui dictez toutes les conditions. C'est pas votre opinion politique qui change les donnes, la donne mondiale. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut regarder de plus près l'évolution de la politique étrangère américaine. D'une part, le président Trump n'avait pas les coudées franches. Il avait son département d'État qui était contre lui et qui torpillait une bonne part de ses initiatives. D'un autre côté, Biden, lui, a totalement le concours du département d'État. C'est même, je pense, plutôt le département d'État qui pilote Biden, parce que il est quand même pas très en forme. Mais, en revanche, là, il se retrouve dans les mêmes problématiques. Par exemple, Donald Trump avait annoncé, et il a voulu pendant ces 4 années, c'est le seul président américain depuis 40 ans ou 60 ans qui n'a pas engagé de guerre. Hein. Donald Trump avait commencé le retrait en Afghanistan. Biden le poursuit. Hein. Donald Trump avait engagé le premier, ce qui était déjà dans les tuyaux, déjà les Américains commençaient à se rendre compte que les rapports avec la Chine tournaient à leur défaveur. C'est Donald Trump qui a tapé du poing sur la table et qui a engagé le bras de fer avec la Chine. Joe Biden va dans la même ligne, tout en essayant de ne pas tomber dans une guerre froide, qui est leur grande crainte, hein, c'est-à-dire une espèce de gel, parce qu'ils peuvent pas se le permettre, la Chine produit trop de choses pour les États-Unis. À l'égard de l'Europe, Trump avait repris une exigence formulée par Obama en disant peut-être que ça serait bien que les Européens contribuent au financement de leur défense. Et Trump était arrivé en tapant du poing sur la table, à mode Trump, en disant désormais vous allez payer. Bon. Et Joe Biden arrive derrière en essayant de se raccommoder les Européens et donc en faisant passer au second plan la question du financement.
Même
donc,
si elle n'est pas complètement enterrée, on va y venir.
Elle n'est pas complètement enterrée, mais il faut se rendre compte qu'il y a des continuités, même s'il y a des différences d'accent, de manière de faire. La politique étrangère est dictée par les circonstances. Hein. Et je dirais juste pour finir, pour moi, le problème américain fondamental, c'est ils ne sont plus en position d'un impérialisme sur l'ensemble de la planète. Ils sont obligés petit à petit d'accepter la multipolarité. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder une certaine position de suprématie sans tout en devant concéder la multipolarité.
Alors, je vais resituer justement l'actualité que vous avez commencé à aborder. Tout le monde n'est pas, on va dire, c'est aussi la fonction de cette émission de faire un peu des sessions de rattrapage d'actualité. Donc, Joe Biden a engagé donc une grande tournée européenne. C'était du 11 au 16 juin dernier. Il y a eu le sommet du G7, cette plus grande puissance mondiale, sommet de l'OTAN, une rencontre au sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. Il a aussi rencontré donc son homologue Vladimir Poutine à Genève. Il y a eu de nombreuses annonces. Ça a été aussi l'occasion peut-être de découvrir dans la presse un petit peu qui est davantage Joe Biden. Alors, il était présenté entre autres dans le journal La Croix, que je cite souvent peut-être un peu trop, mais on a un partenariat avec ce journal. Ceci explique cela. Joe Biden, l'Européen, ai-je appris. Voilà, Joe Biden qui aurait des racines européennes, de la famille venant d'Angleterre et d'Irlande. Et Joe Biden, j'ai découvert aussi, qui serait un grand admirateur de Jacques Maritain, comme l'était son père. Alors, ça c'est, on va dire, peut-être le background qui vous inspirera peut-être. Il y a eu de différentes annonces. Mais surtout, on pouvait lire en fait des choses contradictoires dans la presse, peut-être vous, Marie-Christine Monnoyer. À la fois, le président peut-être qu'attend une partie de l'Europe. America is back, mais cette fois, on va dire, dans le bon sens du terme pour nombre d'Européens. Et en même temps, en effet, quand on est plus isolé, ben, on a besoin des alliés. Voilà, il y avait un peu ces deux versants. Qu'est-ce que vous pourriez expliciter de ce que vous avez compris ou lu dans la presse sur ce sujet?
Alors, d'abord, ce que j'ai bien compris, c'est que, et comme le rappelait notre interlocuteur tout à l'heure, c'est que les Américains sont maintenant parfaitement conscients que le monde n'est plus unipolaire ou bipolaire. Il y a la présence de la Chine est absolument fondamentale. Et donc, la relation États-Unis-Chine ne peut pas être pensée sans qu'il y ait aussi la relation Europe-États-Unis et Chine. Il y a au moins 3. Et en fait, il y a 4 avec la Russie. Donc, ce besoin d'alliance, il est évident. Il est évident, d'abord parce qu'on ne peut pas dire aux gens vous allez payer, par exemple pour tout ce qui concerne la sécurité, sans reconnaître leur rôle, leur implication. Parce que à certains moments, quand l'Amérique était plus là, c'est l'Europe qui a pris le relais. Quand Monsieur Obama n'a pas voulu s'engager, c'est l'Europe qui s'est engagée. Cette reconnaissance du rôle, de la nécessité du rôle de l'Europe, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique que sur le plan des échanges internationaux, en venant en Europe, c'est ce qu'a voulu évidemment montrer le président américain. Donc, et ce point-là, il était important pour les Européens. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien compris que nous n'avions pas toujours les mêmes intérêts. Et cette différence dans les intérêts.
Alors, exemple, peut-être.
On n'a pas les mêmes intérêts, que ce soit en matière, par exemple, pour les GAFA. Les entreprises du numérique sont essentiellement américaines et donc nous souffrons beaucoup plus des comportements des entreprises des GAFA que ne le font les États-Unis. Donc ça, c'est un point tout à fait important. De la même façon, nos relations avec la Chine ne sont pas les mêmes que celles que nous avons que les Américains ont avec la Chine. Nous sommes très dépendants de la Chine, mais pas exactement de la même façon. Et puis, le point symbolique qui a eu lieu pendant le voyage du président américain, qui est la décision d'arrêter les disputes entre Airbus et Boeing. On est à Toulouse, c'est forcément important.
Alors, on a enterré la guerre commerciale et donc les subventions illégales accordées aux avionneurs.
Voilà, c'était une guéguerre absolument aberrante, parce que d'une année sur l'autre, chacun s'accusait pratiquement des mêmes choses. Elles n'étaient pas, les aides n'étaient pas opérées de la même façon, mais elles existaient dans les deux cas. Donc au fond, c'était un partout balle au centre. Et donc là, on a décidé que bon, ben voilà, le ballon, il est maintenant, on le change. Et ça, c'est très important pour les Européens, parce que ça pacifie les relations. On a passé un temps fou à l'OMC à discuter de ces trucs-là. Il vaut mieux discuter de la fiscalité internationale, il vaut mieux discuter de la problématique des GAFA, plutôt que de s'abuser à travailler sur Airbus et Boeing.
Alors Emmanuel Perrier, je vous relance, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, mais j'apporte aussi des éléments à la connaissance des auditeurs. On pouvait aussi lire que, en fait, il y aurait quelque part une deuxième étape dans la diplomatie américaine, qui serait, on va dire, l'axe principal, c'est-à-dire une stratégie indo-pacifique qui pourrait conduire les États-Unis à accueillir plus favorablement les ambitions d'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire que on serait venu en Europe, on aurait retrouvé nos vieux amis, mais la stratégie américaine serait ailleurs et donc l'autonomie financière de défense serait encore d'actualité, celle de consacrer donc pour tous les pays d'Europe 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Voilà, qu'est-ce que ça vous a inspiré d'autre? Qu'est-ce que vous avez lu dans la presse, Emmanuel Perrier?
Alors, c'est un peu en complément, mais aussi peut-être en contraste avec Madame Monnoyer, je suis d'accord, tout ce qu'elle a dit, mais il me semble que l'attitude des Américains n'est pas du tout une attitude d'égal à égal avec l'Europe.
Ah non, ça, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Ah
bon.
Oui.
L'Europe n'est plus le vis-à-vis des États-Unis. Le vis-à-vis des États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, éventuellement le Moyen-Orient quand il y a besoin de pétrole. En revanche, le lien avec l'Europe est important parce que d'abord, c'est une zone stable et je dirais d'amis amicales avec les États-Unis. Donc, ça maintient dans le monde une zone d'amitié et ça fait du poids pour les États-Unis, supplémentaire pour les États-Unis. Deuxièmement, la politique américaine, elle reste une politique de vassalisation, c'est-à-dire on divise et on maîtrise en divisant. Par exemple, les États-Unis ont abandonné, de toute façon ils n'avaient plus le choix, mais ils ont quand même fait le geste d'abandonner les poursuites sur Nord Stream 2, qui est le gazoduc dont l'Allemagne a absolument besoin, qui vient de Russie. Les États-Unis ont tout fait pour empêcher ça.
Absolument.
Mais ils acceptent ça, pourquoi ? Parce que depuis 60 ans, l'Allemagne, c'est le partenaire privilégié des États-Unis pour faire passer ce que les États-Unis ont envie de faire passer en Europe. Donc,
et d'ailleurs, une rencontre qui est annoncée par le président, le président américain a dit qu'il recevrait la chancelière allemande, absolument, Angela Merkel, le 15 juillet 2021.
Voilà. C'est-à-dire qu'on reprend les bonnes habitudes. L'Allemagne, c'est la tête de pont des États-Unis en Europe. Et vu le poids économique de l'Allemagne actuellement en Europe, ce que décide Angela Merkel, plus personne ne peut le contester. Hein, c'est elle qui décide, même quand elle décide seule. Et à ce moment, par exemple, récemment avec la Turquie, l'Allemagne, elle, n'a pas le choix, elle doit s'adosser aux partenaires américains, parce que, à cause de ses exportations, trop dépendantes. Donc, les États-Unis imposent et maintiennent un glacis à l'égard de la Russie, qui est un glacis très artificiel, mais qui permet d'empêcher la constitution d'une puissance régionale économique, qui serait la puissance européenne avec une ouverture asiatique, et ce qui permet aux États-Unis de maintenir une partie du monde sous leurs bottes. Hein. Donc actuellement,
l'axe Indo-Pacifique, c'est quoi ?
L'axe Indo-Pacifique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est du côté de c'est Inde et tout ce qui est autour de la Chine, Japon, Corée, Vietnam et puis l'Australie. Hein. Donc tout ce qui est autour de la Chine, ça c'est le grand axe pour les Américains actuellement, c'est là où ils se concentrent et ils ont besoin d'avoir une Europe faible qui consomme leurs produits, par exemple les 2% de budget pour payer l'OTAN, c'est essentiellement 2% pour acheter du matériel américain, il faut se rendre compte de ça. Hein. Nous allons financer le complexe militaro-industriel américain. Et avoir une Europe qui surtout reste une bonne consommatrice, qui n'ait aucune ambition de peser dans les affaires du monde, qui se tienne bien tranquille, qui soit bien divisée, et à ce moment-là, ça, les Américains, ils trouvent que à ce moment-là, ce sont de bons amis. Nous sommes de bons amis quand nous faisons ça.
Je vous trouve très sévère.
Un peu cynique, mais
oui, et je vous trouve très sévère, et je suis pas tout à fait d'accord. D'abord, il est logique, géographiquement parlant, que les États-Unis, qui ont une côte pacifique, regardent le Pacifique. Et donc, ça n'est pas uniquement un axe, etc. C'est une vision logique qui existe depuis déjà extrêmement longtemps. En plus, les marchés sont importants. Mais elle n'a pas une Europe divisée qui est un bon consommateur, etc. Non, je pense que ça n'est pas ça. Et en plus, l'Europe est loin d'être aussi divisée, elle vient de le montrer, et elle n'est pas qu'un bon consommateur. La preuve, c'est qu'on s'est disputé pendant des années sur ces fameux avions dont on parlait tout à l'heure, et le complexe militaro-américain, on l'a financé. Il n'empêche que on est aussi un compétiteur extrêmement important, en particulier encore en matière d'avions, sur les avions militaires, et de temps en temps, les Américains sont furax des décisions qui sont prises par certains pays sur ces achats militaires. Et il n'y a pas que les avions, il y a les tanks, il y a les équipements, etc. Donc, on a aussi, et certains nous le reprochent beaucoup, la France est aussi un très grand exportateur de matériel militaire.
Troisième.
Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on est uniquement
pas
le
financeur. Pas dans les mêmes proportions, il faut le reconnaître.
Mais non, mais je suis bien d'accord. Mais bon, c'est quand même un point important. Et certains partis politiques le reprochent suffisamment fortement au président en place pour qu'on ne puisse pas dire qu'on soit aussi sévère que vous l'avez été.
Voilà, c'est pas du tout pour appuyer les propos de Marie-Christine Monnoyer, mais voilà, c'est pour équilibrer et montrer en tout cas que la question fait débat. On pouvait lire dans la presse le même article du journal La Croix, un certain François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Le choix sera entre un partage du fardeau, une division du travail entre les États-Unis centrée sur l'Inde et le Pacifique, et une Europe en charge de la sécurité de son voisinage à l'Est comme au Sud. Un partage des risques où Américains et Européens coordonneront leur politique sur les deux théâtres, pouvait-on lire. Bref, affaire à suivre. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer cette émission d'actualité. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, votre émission Vivante Église d'actualité. Ce mois-ci, autour du plateau, Marie-Christine Monnoyer, professeure émérite de sciences de gestion et entre autres donc titulaire de la chaire Jean Rodin, Emmanuel Perrier, religieux dominicain, prêtre professeur de théologie au studium du couvent des Dominicains de Toulouse. Le deuxième sujet que je vous ai proposé, qui peut paraître un peu technique, mais qui en dit long probablement, c'est donc la fin de l'ENA a été annoncée il y a peu, je ne retrouve plus la date, le jeudi 8, il a été annoncé il y a peu, donc la disparition, le 2 juin dernier, pardon, en Conseil des ministres, a été décidé le remplacement de l'ENA par l'Institut National du Service Public, INSP, qui formera donc les différents corps de l'État français, inspection des finances, préfets, etc. Tous seront fondus dans un statut unique d'administrateur de l'État. Et parmi les grandes réformes, tout le monde ira sur le terrain pendant quelques années, ai-je compris. On ne pourra pas commencer par Paris. On pourrait ajouter à cela ce que j'ai pu glaner dans la presse, c'est qu'un tronc commun sera délivré au sein de cette école à 13 autres écoles, entre autres l'École nationale de la magistrature, l'École des hautes études en santé publique, l'Institut national des études territoriales, bref, une réforme qui avait été annoncée après la crise des Gilets jaunes, qui est un symbole fort pour cette haute institution de la fonction publique française qui avait été créée après-guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Perrier? Est-ce là une bonne nouvelle?
À vrai dire, je ne saurais pas trop, parce que tant qu'on n'a pas la forme précise, les contenus, et surtout, je dirais, les objectifs.
Qu'est-ce que vous entendez par objectif?
Il faut voir se rappeler la raison d'être de l'ENA. La raison d'être de l'ENA, elle provient des années 30, d'une conception technicienne de la politique, de l'administration publique, qui commence à se mettre en place sous Vichy, avec l'école des cadres du Riage, et qui va ensuite trouver son accomplissement dans la création de cette école, qui vise à former des serviteurs de l'État totalement dévoués à la chose publique, c'est l'intention première de Michel Debré, et l'État a toujours eu besoin de tels serviteurs, c'est-à-dire d'agents d'exécution, d'administration, qui sont le relais d'une politique. Si vous n'avez pas ces grands fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires, qui ont le souci du bien commun, de la chose publique, et le souci de mettre en œuvre les politiques, rien ne se fait. Et donc, l'ENA va former des générations de grands techniciens de l'administration, de l'État.
Dont les symboles sont les préfets.
Dont un des symboles tout à fait particuliers, c'est les préfets, parce que la particularité du préfet, c'est qu'il relaie sur les territoires, à l'intérieur dans toute la France, il relaie l'action de l'État. Il est vraiment le bras qui représente la férule de l'État et de l'État central. Hein. Et le problème de l'ENA, c'est que c'est un problème récurrent. Toute organisation de hauts fonctionnaires, de grands serviteurs, marque à un moment ses limites. C'est-à-dire qu'elle fonctionne pour un 50, 60, 70 ans. Puis les choses évoluent. Soit l'école elle-même se perd un petit peu dans les sables, soit les besoins de l'État ne sont plus les mêmes. Et puis il y a un problème de renouvellement des élites. C'est-à-dire que les élites, par principe, elles ont tendance à s'auto-engendrer. Donc régulièrement, il faut réintroduire, refaire monter, hein, du mérite. Alors,
un tout petit apport au débat. Donc il y a un concours talent qui est ouvert maintenant donc pour cette future école. Contribuer justement à redévelopper ou à favoriser l'ascenseur social, comme on dit. Mais les détracteurs disent qu'elle compte 6 places sur une centaine.
Alors oui, sachant que dans la précédente c'était déjà 6 places, hein, et que le succès était extrêmement faible de cette voie. Mais La question, la manière dont l'ENA avait résolu le problème de cet ressourcement des élites, c'était la méritocratie. Hein. Et ça, c'était le grand atout de l'ENA. C'était que n'importe qui, n'importe quel milieu, par le biais de la méritocratie française, pouvait accéder à un très haut poste dès lors qu'il faisait montre de son souci de défendre la chose publique.
Mais là, ça ne change pas d'une certaine manière. Tout le monde pourra toujours tenter.
Alors, le problème, c'est que le problème de fond de l'ENA aujourd'hui, c'est que, enfin, il y a un double problème. Le problème, c'est que du point de vue du concours, c'était plus du tout c'était méritocratique, mais en réalité, il n'y avait que un certain milieu qui pouvait y accéder. Pourquoi ? Bah parce que l'école derrière ne suit pas. Hein, vous avez plus, l'ascenseur social est bloqué depuis 30 ans. Et puis d'autre part, vous avez une transformation des missions de service public. Les étudiants de l'ENA sortaient, allaient dans le privé, revenaient dans le public, se faisaient des carrières pour eux, et le sens du bien commun, notamment dans la préfectorale, le sens du bien commun tendait à s'éroder. Le sens de service public tendait à s'éroder. Et je pense que du point de vue du recrutement, il n'y aura pas d'amélioration dans la méritocratie. En revanche, peut-être qu'il peut y avoir une amélioration dans le retour à un sens du service commun, du service public.
Voilà, on peut dire que, donc, à l'intérieur de ça, donc, il y a aussi la fin du corps préfectoral, que ça a été, c'est une mesure qui, pour le coup, a été critiquée en partie par Bernard Cazeneuve, qui considère qu'il y aurait là quelques risques. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une annonce. La seule chose qu'on sait, c'est que tout le monde sera obligé d'aller sur le terrain et qu'on favorisera par ce concours talent l'ascenseur social, mais on n'en sait pas beaucoup plus, sauf erreur de ma part. Marc-Christine Monnoyer.
Moi, je pense qu'il faut pas oublier que quand on a créé l'État, et vous venez de le dire, l'ENA, et vous venez de le dire, c'était pour créer, pour créer une méritocratie avec des gens qui auront été formés pour les besoins de l'État à l'instant, à une période précise. Pourquoi est-ce que ça avait été fait? Parce qu'avant, ce n'était pas une méritocratie, c'était le fils de la fille, je me permets de rappeler que l'ENA n'est ouverte aux filles que depuis la fin des années 70. Mais ce qui est important, c'est que avant l'ENA, c'était le patrimoine qui conduisait à ce type de fonction et non pas une méritocratie liée à des concours. Ce qui est aujourd'hui, et on vient justement de l'expliquer, c'est qu'au fond, c'est désormais aussi le patrimoine, parce que c'est le patrimoine culturel acquis dans la bourgeoisie, c'est le patrimoine culturel acquis à Sciences Po qui permet d'accéder à l'État, à l'ENA. Donc on a changé d'un patrimoine financier vers un patrimoine.
Ça ne répond pas à la crise de l'ascenseur social.
Voilà. Alors maintenant, il y a une chose que j'ai envie d'ajouter, parce que les jeunes préfets, ils allaient aussi en région. Tout à l'heure, vous avez dit on peut ne pas commencer qu'à Paris, c'est pas tout à fait vrai. On allait en région, il y avait vraiment des.
Mais je parlais pas de tous, hein.
Non. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, les énarques sont insuffisamment compétents dans de multiples disciplines, et c'est ça qui est gênant, parce que Sciences Po, l'ENA, il n'y a pas de technicien de la science dure. Or, aujourd'hui, on a aussi besoin, et je vais reprendre les propos du pape, de cette transdisciplinarité. Et l'ENA n'a pas su évoluer vers cette forme de transdisciplinarité qui permet d'être un citoyen du monde d'aujourd'hui. Et ils apparaissent comme des technocrates et non pas comme des citoyens du monde d'aujourd'hui.
C'est-à-dire, en fait, excusez-moi, vous semblez dire une chose contradictoire, c'est-à-dire qu'ils seraient à la fois trop généralistes et pas assez spécialisés à vous entendre, et
non,
en même temps...
Ils ne sont pas suffisamment ouverts à des disciplines différentes.
C'est-à-dire,
par exemple, ils sont très mauvais en sciences dures la plupart du temps.
Sciences dures, qu'est-ce que vous appelez sciences dures?
La physique, l'électronique, les mathématiques. Ils sont d'excellents parleurs, ils sont d'excellents écrivains, ils connaissent bien le droit.
C'est pas ce qu'on leur demande, non?
Mais si.
Ça peut pas être des esprits universels.
On peut pas être des esprits universels, mais on peut avoir suffisamment de connaissances pour être capable de comprendre les problèmes du monde. Et les problèmes du monde aujourd'hui, ils sont aussi des problèmes technologiques. Or, la plupart des préfets ne sont pas suffisamment formés en la matière.
Juste dans le même sens, une des grandes causes de la désindustrialisation de la France depuis 20 ans, qui en a coûté un chômage phénoménal, c'est le fait de ne plus avoir de politique publique d'industrie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour les porter. Personne ne voyait l'intérêt de l'industrie.
Même si M. Sarkozy disait qu'il aimait les usines, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on y fait dans une usine. Comment ça se construit, quel est le lien entre l'investissement, le produit, le marché, etc. Or, à Sciences Po, on n'apprend pas ça. Et si vous voulez, la formation à l'ENA a vieilli. Alors, elle n'est plus démocratique et elle a vieilli sur le plan scientifique.
Alors là, en l'occurrence, en plus, ce qui est la culture commune qui prévalerait donc à l'intérieur de cette nouvelle institution qui est donc, faut que je retrouve son nom, donc l'Institut National du Service Public, et puis dans ce tronc commun avec ces 13 autres écoles, c'est vrai que la seule chose qu'on peut lire dans la presse, c'est les thématiques sur la transition écologique et les principes républicains.
Oui, mais la transition écologique, ça suppose en fait d'être un petit peu ingénieur. Parce que sinon, on ne comprend pas.
Donc ça vous laisse dubitatif.
Moi, si vous me permettez, je rajouterai un point supplémentaire. Deux petits points. Le premier, c'est...
Si vous pouvez relier ça aussi à la crise des Gilets jaunes.
À la colère
qui avait été celle des Français.
Faisons-le. Le premier, c'est la sécession des élites. La sécession des élites, c'est le fait que aujourd'hui, quelqu'un qui a une très bonne formation n'est pas encouragé, ne se sent pas solidaire de la population au milieu de laquelle il a à vivre. Il se sent plus proche d'une élite d'un autre pays. Et notamment, par exemple, il va chercher des postes dans des grandes entreprises ou dans des grandes administrations internationales, par exemple à Bruxelles. Et donc, en fait, ce qui au départ était un souci du bien commun devient en réalité un souci carriériste de se trouver une bonne carrière légitime. Hein. Mais ça n'est plus avec le souci constant du bien de la population. Et ceci, je le relie à un deuxième aspect qui est le fait que le pouvoir est ailleurs aujourd'hui. Le pouvoir, quand vous avez 60% de la production législative qui ne vient pas de l'administration, mais qui vient de l'Europe, c'est-à-dire que le pouvoir est ailleurs. Quand vous avez la majorité de l'activité qui se fait dans les entreprises, le pouvoir est ailleurs. Donc, la perte de sens de l'État vient aussi du fait que l'État est de plus en plus impuissant, ou il a en tout cas un rôle bien moindre du point de vue de l'orientation d'une politique. Et je finis par là, c'est que, ultimement, le problème, c'est quand vous avez un chef qui donne une politique, comme a pu l'être le général de Gaulle, qui donnait des axes de politique, eh bien, c'est exaltant pour des gens qui ont le souci de la chose publique de se dire « on la met en œuvre ». Et moi, j'ai vu des grands commis de l'État qui avaient vraiment cette espèce de dévouement total, mais y compris dans de toute leur vie, à la chose publique et au bien des citoyens. Simplement parce que vous avez un homme politique qui fixe des objectifs, qui a une vision à long terme pour son peuple. Le jour où il n'y a plus ces visions, en réalité, c'est un peu chacun pour soi. Et à ce moment-là, être une élite, c'est surtout pour mon intérêt.
Marc-Christine Monnoyer, ça attire un dernier commentaire, peut-être en écho à la crise des Gilets jaunes. Hein. Ce qu'on pouvait entendre dans cette crise, c'était aussi cette colère contre ce sentiment que l'abstention des élections vient confirmer, que quelque chose du pouvoir, justement, échappe à ceux qui sont censés le porter.
Bien, si vous voulez, j'ai envie d'ajouter que, entre le texte de loi, qui a été plus ou moins bien construit, et puis son application, il y a parfois tellement de temps et que la partie de la population qui attend les résultats se dit que ces hommes de l'État, ces grands commis de l'État, qui ont effectivement des belles carrières, qui ont effectivement des revenus élevés, eh bien ne sont même pas attentifs à la mise en œuvre de ce qui a été pensé comme étant la politique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, s'il se passe 2 ans entre un texte de loi que l'on a annoncé un petit peu avec force en disant on va faire ceci, on va faire cela, et que le décret ne vient que 2 ans plus tard.
Vous voulez dire que c'est souvent le cas en France, c'est ça ?
Ah oui, c'est très très souvent le cas. Malheureusement, c'est très très souvent le cas. Ce qui fait que on a l'impression que le politique parle mais n'agit pas. Alors qu'en fait, il agit, mais notre administration est devenue tellement compliquée que, les résultats n'apparaissent pas. Et cela donne l'impression que ce type de responsabilité n'est pas à mettre en avant.
Voilà, en tout cas, on pouvait lire aussi que, soi-disant, donc le gouvernement, je dis soi-disant, enfin, sans vouloir ajouter un commentaire, hein, cette réforme aurait été donc décidée par Emmanuel Macron, donc au début de l'année, entre autres suite à la crise sanitaire, la crise ayant montré une certaine difficulté de l'administration centrale à gérer de telles situations. Affaire à suivre. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour deux sujets qui sont les sujets de votre choix. Cette réforme mondiale de la taxation des entreprises et puis l'idéologie du woke, ça veut dire éveillé en anglais. Et en l'occurrence, ça serait, c'est toute une frange donc de la population, être conscient des discriminations liées à l'égalité, entre autres raciale et l'égalité de genre.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission d'actualité du mois autour du plateau. Marie-Christine Monnoyer, professeure émérite de sciences de gestion pour ceux qui nous rejoindraient et entre autres secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse, et Menel Perrier, religieux dominicain, prêtre et professeur de théologie au couvent des Dominicains de Toulouse. Alors, vous avez choisi donc deux sujets. Un sujet chacun sur lequel vous vouliez apporter notre attention. Le premier, on en a largement entendu parler, mais c'est donc cette réforme mondiale de la taxation des entreprises, l'impôt sur les sociétés, portée en l'occurrence donc entre autres par Joe Biden, qui a été acté donc lors du sommet du G7 récemment, les 4 et 5 juin dernier, réforme majeure puisque on irait, Marie-Christine Monnoyer, je vais vous laisser l'expliquer, vers en fait une imposition minimale de l'impôt sur les sociétés de 15%. Alors, pour qui, dans quel pays, ça reste encore à confirmer, mais un alignement, et ça serait un grand pas. J'ai mis la citation ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, qui disait que c'était un moment historique et un moment de fierté. Pourquoi vouliez porter notre attention sur cette actualité ?
Je voulais apporter votre attention sur cette actualité parce que c'est un sujet qui plombe les relations internationales, et qui plombe les échanges internationaux. Rappelons-nous, il y a un certain nombre de pays qui ont décidé que le taux d'imposition sur les bénéfices sur les sociétés dans leur pays pouvait être voisin de zéro. Donc il y a une concurrence non égale entre les pays qui imposent, comme chez nous, entre 26 et 30% d'impôts sur les bénéfices des sociétés, et puis ceux qui imposent entre 0 et 10%. Donc évidemment, les entreprises s'organisent pour aller mettre leur siège social dans ces pays-là et ainsi diminuer considérablement leur participation aux charges collectives de l'ensemble des pays de la planète. Alors, ce problème est lourd, puisqu'au fond, il existe aussi bien pour les États-Unis, qui voient une partie de la manne fiscale disparaître, que pour les pays européens, qui se font entre eux une concurrence sur ce taux d'imposition. Donc, il y a une dimension non pas uniquement de concurrence illégale, mais d'immoralité, puis qui est largement pratiquée par certaines très grandes entreprises qui vont s'installer aux îles Caïmans, par exemple, où elles ne paieront rien.
Îles Caïmans, c'est 0%?
Oui, c'est zéro. Ouais. Alors que si elles étaient imposées sur les ventes et les productions qu'elles avaient réalisées dans tel ou tel pays, eh bien, elles auraient dû, dans certains cas, payer 25 ou 30% de leurs bénéfices. Donc c'est évidemment, quelque part c'est immoral, parce que ces entreprises, elles profitent malgré tout de toute l'organisation administrative, des investissements, de la formation de tous les pays de la planète.
Allez-y, je vous en prie.
Et ça crée une distorsion énorme de concurrence. Par exemple, quand vous allez acheter un livre chez votre libraire, vous vous déplacez, vous allez acheter le livre, le libraire, il paye l'impôt en France, il paye toutes les taxes en France. En revanche, si vous le commandez sur Amazon, ah, mais alors là, pour le coup, vous payez bien Amazon, mais en revanche, Amazon ne déclare pas ses revenus en France. Et Amazon profite de taux d'imposition très favorables, ce qui fait que les libraires ne peuvent que mourir, parce que ils sont en position tout à fait défavorable.
Alors, le changement, si on prend un exemple, par Christine Molay, est-ce que vous pouvez continuer de faire un peu de pédagogie, en reprenant peut-être l'ensemble de la chaîne. Je ne sais pas, par exemple pour un jean comme ça, moi ce que j'ai lu, c'est que donc en l'occurrence Google demain, pour son activité française, tout ce qu'elle aura perçu en termes de publicité vendue à des clients français, bah, elle sera obligée d'être imposée en France.
Voilà.
Mais alors si on prend le jean, il faut quand même que tout le monde soit concerné jusqu'au bout de la chaîne. Comment ça se passe pour le Bangladesh, Marie-Christine Monnoyer?
Alors écoutez, là ça va être un peu compliqué, parce qu'il va falloir savoir par chacune des étapes, qu'est-ce qui a été produit, quelle est la part de sur cette grande chaîne de production, quelle est la part pour chaque pays.
Et ce que je voulais dire par là, c'est que ça ne peut pas concerner que le G7 ou le G20 qui doit se réunir en juillet prochain.
Ça concerne tout le monde. Et si vous voulez, pour l'instant on en parle, avant qu'on en arrive à la réalisation, et il va se passer un certain temps. Il va se passer un certain temps parce que dans chacun des groupes de pays, alors le G7 c'était le plus facile, le G20 c'est un peu plus compliqué, mais comme on peut le voir par exemple au sein de l'Union européenne, la question fiscale est une question qui doit être traitée à la majorité, pas à la majorité, à l'unanimité. Or, en Europe, les Hongrois payent 9%, les Irlandais 12,5%, et nous 26 ou 28 selon le niveau du... Bon, alors, la différence est grande. Et alors, ce qu'il y a, c'est que si on dit 15, eh bien, il va falloir que les Hongrois, qui sont pas des gens si faciles que ça, et les Irlandais acceptent que l'on passe à ça, pour que ça puisse être non seulement au niveau européen, mais aussi ensuite au niveau international. Donc on n'a pas fini d'en discuter. Mais c'est le fait d'en parler, le fait de le dire, ça peut avoir...
C'est le début de la fin de l'évasion fiscale.
Et surtout, c'est aussi une idée qui me paraît, en tant qu'économiste de base, extrêmement intéressante. Vous voyez, les Irlandais disent aujourd'hui, au fond, on pourrait peut-être accepter les 15%. Parce que maintenant... on est devenu un peu grand. On a de très bonnes universités. On a de très bons équipements. Et donc les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas uniquement parce qu'ils ne payent que 12,5%. Ils viennent parce que on est bien équipé. Puis en plus, ils viennent parce qu'on parle anglais avec un accent fort, mais on parle quand même anglais. Et donc ça veut dire que les pays se rendent bien compte que l'avantage, ce n'est pas uniquement le taux d'imposition. C'est aussi la structure des pays. Le Costa Rica a fait la même chose. Il est devenu un pays dans lequel il y a des infrastructures, il y a des écoles. Et c'est très important pour beaucoup de pays de pas se dire que ils ne vont vivre que de la taxation, que des dessous de table que donnent certaines multinationales, qu'il faut pas que ça aille dans la poche des dirigeants, mais qu'il faut que ça aille dans le pays. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important.
Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. En préparant l'émission, vous m'aviez dit qu'il fallait peut-être imaginer que pour certains pays qui n'ont pas les mêmes atouts, justement...
On soit un petit peu différent.
Voilà.
Parce que...
Explication ou...
Alors, ce qui se passe...
Illustration.
Le Brésil est un très grand pays. S'il y a 15% d'impôts, c'est au lieu de un peu moins, ce qui est le cas actuellement, ça n'est pas catastrophique pour les grandes entreprises, parce que le Brésil est si grand que c'est un énorme marché. Mais pour les petits pays, l'atout fiscal est un peu le seul qu'ils ont, parce que on peut pas vendre grand chose dans un tout petit pays, surtout s'il est pas très riche. Donc dans ces conditions, il ne serait pas complètement aberrant d'avoir deux taux. Un taux un peu plus bas pour les petits pays et un taux de 15 ou 20% pour les plus gros pays. Ça serait peut-être plus logique.
Affaire à suivre. Merci en tout cas d'avoir attiré notre attention ou d'avoir continué à expliquer ce qu'on avait commencé à lire dans la presse. Emmanuel Perrier, je m'étouffe, vous allez m'aider. Vous vouliez attirer notre attention donc sur l'idéologie du woke. Woke pour éveiller, je le disais, donc être conscient, en l'occurrence être conscient donc des manquements à l'égalité raciale ou de genre. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui se développe de plus en plus en Europe et sur les campus universitaires. Et vous faisiez un lien, aussi étrange que ça puisse paraître, avec les élections régionales, c'est-à-dire...
Avec plus exactement l'abstention aux élections régionales.
Hein.
Ce qui est très frappant dans l'abstention aux élections régionales, qui est tout à fait stupéfiante, c'est que cela montre une disparition de l'intérêt pour la représentation et pour le politique. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu pour plusieurs raisons. Il n'y a plus d'enjeu parce que d'abord, on ne voit pas très bien en quoi les programmes politiques correspondent aux attentes réelles. Des questions fondamentales ne sont pas traitées. Beaucoup de questions secondaires, en revanche, occupent toute l'importance.
Quand on lisait les programmes quand même des candidats, au moins pour l'Occitanie, le programme était quand même relativement fourni et assez conséquent. Hein, c'est sur les attributions des régions, en tout cas. Hein.
Oui, sur les attributions des régions. Maintenant, la marge de manœuvre est très faible. Et en réalité, les politiques sur les régions consistent essentiellement à dépenser de l'argent. Hein. Et c'est malheureusement ça, c'est comment dire, il n'y a pas un intérêt véritable pour les régionales. Je rajoute encore un point qui est que il y a encore moins d'intérêt depuis la réforme des régions. Cette réforme totalement artificielle qui a été dictée par l'Allemagne qui veut une Europe divisée en super régions contre la réalité géographique, historique, culturelle des régions françaises, fait que aujourd'hui, la région Occitanie, c'est un ensemble, c'est un agrégat, mais qui est très artificiel. Toujours est-il que l'intérêt pour la chose régionale, on l'a vu, c'est 30%.
Alors, quel lien vous faites avec l'idéologie du woke? Alors, peut-être vous pouvez commencer par réexpliquer ce que c'est, et puis nous dire le lien que vous faites.
Oui, c'est que l'on voit c'est pour une bonne très important et actuellement c'est assez frappant parce que les Américains sont en train de vivre une crise culturelle assez importante, mais c'est quelque chose que l'on voit tout aussi bien en Europe et pas seulement parce qu'on l'importe mais parce que ça existe en Europe. C'est une crise des raisons de vivre, une crise des raisons de vivre qui fait que tout devient source d'angoisse, de ressentiment, d'accusation, de reproche. De quelque manière, la société a promis de s'occuper de tout pour nous, et Et dès lors, si la société s'occupe de tout, eh ben le moindre anicroche, la moindre chose qui ne va pas, eh bien ça devient un problème social. Donc il faut en faire une affaire politique.
Sur les campus ou parmi les chercheurs et les intellectuels, donc c'est la lutte contre les discriminations.
Non, c'est une idéologie de lutte des classes.
Ce que c'est précisément.
Alors,
voilà,
ce que c'est la transformation de la lutte des classes marxiste dans le domaine culturel.
On a une guerre des races et des sexes, disons.
Exactement. Hein. Et dans lequel on tout devient. Vous appartenez, vous n'avez plus d'identité, sinon votre identité politique, et votre identité politique se définit par votre race, par votre genre, genre qui est labile, hein, qui peut changer selon vos envies, mais aussi par toute situation que vous, dans laquelle vous estimez être victime d'injustice sociale. Et votre sentiment de vivre dans l'injustice justifie y compris la violence, y compris le refus de la raison, le refus de la rationalité. Vous essentialisez votre rancœur, votre ressentiment, et vous faites porter sur la société le poids de ce ressentiment.
Certains parlent de victimisation universelle des minorités.
Voilà, mais en fait, vous trouvez toujours de quoi être dans une minorité et de quoi vous sentir agressé. Hein. Tout devient affaire de « je me ressens agressé, la société doit traiter l'injustice que je ressens ». Voilà. Et donc on a affaire à quoi ? On a affaire à des subjectivités ultra sensibles, parce qu'en réalité elles n'ont plus d'identité propre, elles ne vivent que par le politique. Mais le politique lui-même ne donne aucune raison de vivre. C'est-à-dire que je sois un homme ou une femme, c'est pas au politique de le décider. Et si c'est le politique qui décide, à ce moment-là, ça sera une identité purement attribuée, purement factice, purement arbitraire. Hein. Et c'est là où je rejoins l'affaire des régionales, c'est que, d'un côté, nous sommes dans des sociétés dont la politique se vide de substance. La politique n'a plus de projet humain. La politique n'a plus de projet de société commun dans lequel on cherche un bien ensemble. Elle s'est désubstantialisée, elle s'est vidée, c'est plus que actuellement satisfaire des besoins, répondre à des attentes, répondre à tous les désirs. Et de l'autre côté, eh ben, on a affaire, le contre-coup, ce sont justement des désirs qui sont exacerbés. Tous mes désirs doivent être pris en compte, ça crée de la violence, ça crée de la tension sociale, et ça crée du ressentiment en permanence, ça alimente une machine à ressentiment. Et ça me paraît être cette confrontation d'une politique qui ne donne sens à rien, et dans laquelle personne ne se retrouve.
Donc désenchantement politique et
voilà.
Crise culturelle, c'est
et
ça?
Et de l'autre côté, une espèce de sentiment de vide, d'échec, de ne pas se retrouver, de ne pas savoir qui on est, et dans lequel la seule solution c'est la violence. Si les sociétés actuelles n'arrivent pas à résoudre ce double problème qui n'en fait qu'un, c'est-à-dire le vide dans lequel elles sont installées, qui pour moi est d'abord un vide spirituel, il n'y a rien à proposer comme raison de vivre humaine, hein, et si elles ne sortent pas de ce vide, elles vont se trouver prises entre cet étau du vide politique et du ressentiment des sujets irrités.
Alors, on peut dire que vous n'êtes pas le seul à dire ça. Hein. Je trouvais un article d'un certain Christophe de Vogue, qui est donc publié dans Le Figaro. Voguet, qui parlait de l'idéologie du Vogue, une culture du ressentiment qui sape la possibilité de faire société. Et puis, il citait des voix pour lui courageuses, Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, et Mathieu Boccoté. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Christine Monnoyer? Normalement, vous n'avez pas le temps, mais je vous donne quand même la parole.
Je suis quand même assez mal à l'aise, pour une raison un petit peu simple. C'est que, pour deux raisons. La première, c'est que je suis loin d'être persuadée que cette abstention massive au régional soit véritablement significative d'un courant profond, parce que j'ai l'impression que ces élections se sont passées à un moment un peu bizarroïde de notre vie française, et que du coup, il n'y a pas eu de véritable engagement à cause de ça. Et donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup de conjoncturel. Le deuxième point, c'est que je suis bien consciente qu'il y a la volonté, enfin le sentiment d'être victime se répand d'une façon un petit peu forte, mais dire que la politique ne propose plus rien, je trouve ça un petit peu sévère. Et j'ai un peu l'impression que lorsque le document définitif du GIEC sera sorti dans quelques mois, on va tout de suite trouver qu'on a besoin de beaucoup de politique, ne serait-ce que pour empêcher que la catastrophe un petit peu annoncée par le GIEC se réalise dans notre pays, sur notre planète. Donc, je crois qu'on est dans une sorte d'entre-deux un petit peu compliqué qui explique cette abstention. Mais je crois que la politique est porteuse encore profondément de réflexion, sur certains points d'espérance, parce que justement, tous ceux qui ont une réelle spiritualité, une volonté de participer à des courants démocratiques, sont susceptibles d'en être porteurs.
On en reparlera. Pour boucler la boucle, j'avais commencé avec Eugénie Bastier. Eugénie Bastier, qui dans un autre article sur cette idéologie du woke, disait qu'elle était plus facile à contrer que le communisme. Ce n'est pas pour lui donner raison, mais c'était pour contribuer à alimenter la réflexion. Et Eugénie Bastier, qui est une enfant du pays, et donc qui a publié un livre, La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, paru aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.
Ce qui manque surtout, je trouve, c'est la question du débat.
On y reviendra. Merci beaucoup à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.